Voilà, bonjour à chacun. On a parlé à quelques reprises là ce matin, par des psaumes, par l'épître que Paul a écrit aux Romains, des épreuves. Et effectivement, il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent des épreuves. J'en avais encore un aussi, certainement un qu'on connaît aussi par cœur, où c'est Jacques qui dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, nous dit Jacques. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Autrement dit, Jacques nous dit que Dieu non seulement permet, mais donne même des épreuves parce qu'il veut nous travailler. Parce qu'en fait, il veut nous faire grandir. Parce qu'il veut nous faire mûrir. Alors, pas besoin de chercher les épreuves, elles vont venir toutes seules, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une question d'être sadomaso. Mais tôt ou tard, et vous qui êtes à la retraite, vous savez que les épreuves sont là, n'est-ce pas? Elles viennent naturellement. Elles vont arriver si elles ne sont pas encore venues. Et Luc, dans son récit sur la vie de Jésus-Christ, dans l'évangile qu'il a écrit, nous parle notamment d'une de ces épreuves que les disciples de Jésus-Christ ont traversées, que Jésus-Christ a fait traverser même à ses disciples pour les instruire, pour leur permettre de comprendre davantage qui est Jésus-Christ, qui est ce rabbin qu'ils sont en train de suivre, cet enseignant qu'ils sont en train de suivre. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile que Luc a écrit, afin d'apprendre nous-mêmes aussi, en tant que disciples, à réagir dans nos épreuves, à apprendre ce que nous devons apprendre sur qui est notre Maître, sur qui est Jésus-Christ, de nous laisser, comme les disciples, modelés par les épreuves que Dieu nous donne dans sa bonté, dans le but de encore aujourd'hui nous faire grandir, nous attacher à lui et recevoir la paix et le repos qu'il veut nous donner. Et nous allons lire alors dans le chapitre 8, à partir du verset 22, donc la suite de notre texte, et jusqu'au verset 39. Donc Luc, chapitre 8, c'est verset 22 jusqu'au chapitre 39. Et voilà donc ce que nous relate Luc. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent, et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, Où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. En foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jusque-là, notre texte. Par cette épreuve, on voit en fait que l'identité de Jésus-Christ est encore plus révélée à ses disciples. On apprend au travers de cette épreuve et les disciples l'entendent au travers de cette épreuve. Qui est celui-ci ? Il est le Fils du Dieu Très-Haut, le libérateur des forces naturelles et spirituelles, le juge vainqueur de Satan et de ses démons. Et entre la théorie que les disciples peuvent peut-être connaître, ou en tout cas que nous on connaît, et l'application pratique de la paix et du repos face à ces situations, Dieu donne une épreuve. Jésus permet une épreuve pour nous permettre de passer à la théorie, à l'application pratique de cela dans nos vies. Et je propose de reprendre quelques éléments du texte pour le mettre en évidence. Donc Jésus, dans notre texte, nous dit « embarque ses disciples sur ce lac, le lac de Galilée, qui est un grand lac du nord du pays d'Israël, lac que au moins 4 disciples connaissent, Pierre, André, Jacques et Jean, car ils étaient des pêcheurs professionnels sur ce lac, qui venaient d'une des villes qui était au bord de ce lac. Et donc, en tant que pêcheurs professionnels, ils sont habitués aux frasques, aux aléas de ce lac. Ils savent ce que c'est quand il est calme et ils savent ce que c'est quand il est déchaîné. Et effectivement, ce lac, ça nous semble bizarre, hein, le lac Léman ou le lac Neuchâtel, le lac de Morat, ce n'est pas forcément là-dessus qu'il y a des gros problèmes, même si malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes sont mortes sur le Léman en tout cas. Mais le lac de Galilée a cette particularité en fait, d'être entouré de hautes montagnes et d'être en dessous du niveau de la mer, ce qui fait qu'il y a des grosses différences de température qui peuvent s'exercer dessus. Et tout d'un coup, il y a des gros vents, des grosses tempêtes qui peuvent venir de manière violente et subite. Et en 92, il y a un enregistrement qui a été fait et il y a eu une vague de 3 mètres de haut qui a été mesurée sur ce lac. Donc vous imaginez quand même ce que ça veut dire. On pourrait presque parler pour nous d'un tsunami, sauf qu'il n'y a pas eu de séisme. Et ça a dévasté, ça a pénétré dans le centre-ville de la ville de Tibériade, justement. Et Jésus se retrouve coincé, ou plutôt c'est surtout ses disciples qui se retrouvent coincés sur le bateau dans cette grande tempête. Et ces professionnels, ceux qui savent gérer ce lac avec les bateaux et les tempêtes, voient le grand danger au point qu'ils n'arrivent plus rien à gérer du tout. Ils sont complètement confrontés à leurs limites, craignant pour leur vie, et alors vont vers Jésus-Christ, maître, maître, verset 24. Nous périssons. Les professionnels de la mer savent, c'est la fin. C'est fini pour nous. En 2014-2015, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout d'un coup, j'étais pris de vertiges et de vomissements subites. Et voilà, je me suis écroulé par terre, il y a tout qui sortait, c'est pas très joli à voir. Et j'arrivais plus à me lever, parce qu'à chaque fois que j'essayais de me lever, la tête, elle repartait dans tous les sens, et tout ressortait encore, en tout cas ce qui restait. Excusez-moi pour les amis de la poésie. Et Claire a appelé le SAMU, le médecin, pour voir ce qui se passait. Et quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite dit « Attention, c'est peut-être une méningite foudroyante ». Et quand on entend ça, on se dit « Oups ». qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et on nous embarque en ambulance. Et dans l'ambulance où on n'est pas bien, on se dit, bon, est-ce que c'est la fin? Est-ce que je suis arrivé à ma limite? Et qu'est-ce qui va se passer pour Claire et les enfants? Et parfois, on est confronté à nos limites, n'est-ce pas? Pour les disciples, c'était sur la tempête. Moi, c'était dans l'ambulance. A priori, voilà, désolé, ce n'était pas la fin. Et pour d'autres, on se dit, mais est-ce que c'est une épreuve, c'est la fin de mon couple? Est-ce que c'est la fin d'une relation privilégiée? Est-ce que c'est la fin de mes projets professionnels, de mes projets d'avenir? Tellement il y a une tempête qui s'est levée dans notre vie et on est complètement débordé, c'est la panique totale comme pour nos disciples. Et on ne sait pas quoi faire. Et ici, Jésus se lève, fait une remarque à l'attention de ses disciples après avoir calmé la tempête. Une remarque assez, pas dure, mais qui nous reprend. Où est votre foi? Où est votre foi? Dans la tempête, face à nos limites, où est votre foi? Il dit à ses disciples. Autrement dit, ils ont eu raison de venir à lui, n'est-ce pas? Ils ont eu bien fait de dire « Maître, maître !» Mais c'est l'attitude, cette grande panique qui pour eux, c'était la fin. Nous périssons. Et Jésus leur pose cette question « Où est votre foi ?» Autrement dit, vous n'avez pas bien réagi, les gars. Vous n'auriez pas dû réagir comme ça. Vous auriez dû réagir avec foi au lieu d'être submergé par la crainte et la panique. Pourquoi? Quelle foi ils auraient dû avoir? On a lu dans un texte précédent, quand il y a un centurion qui est venu voir Jésus, en fait, il n'est même pas venu, il a envoyé son serviteur, des délégués, pour demander son intervention face à son serviteur qui était malade, en extrême limite également. On a vu que Jésus a admiré la foi de ce centurion. Et ici, c'est complètement l'inverse. Pour ses disciples, c'est le reproche. Pas de colère, mais ce reproche. Où est votre foi? Qu'est-ce qu'ils savaient sur Jésus-Christ qui aurait dû les amener à réagir différemment? Et si on s'amuse un peu à reprendre le texte de Luc, de ce qu'on a vu depuis le début de nos lectures, voilà ce qu'ils ont vu de Jésus-Christ. Il a rendu la vue à un aveugle, n'est-ce pas? Il a purifié des lépreux, rétabli des boiteux, redonné l'ouïe à des sourds. Il a même redonné la vie à un mort, le fils de la veuve de Naïn. Il a délivré des hommes d'esprit impur et les disciples de Jésus-Christ ont vu cela. Ils ont assisté à tout cela. Où est votre foi? Est-ce que vous avez tout oublié? Est-ce que quand l'épreuve vient, il y a aussi une grande éponge qui vient et chut, notre histoire, on l'oublie, ce qu'on a vu de Dieu, on l'oublie et c'est la panique à bord. Ne vous souvenez-vous de rien? Face à nos dangers, face à nos propres limites, face à nos épreuves que Dieu donne et permet dans notre vie, où est notre foi? Où est notre foi? Et c'est l'enseignement qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. À peine sortis, et même ils ne sont pas encore sortis d'Égypte, que Dieu leur dit, chaque année, vous offrirez un agneau dans vos maisons pour vous souvenir. Pour vous souvenir et pour proclamer à chaque nouvelle génération de la libération que Dieu. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas qui vous êtes. Face aux ennemis de son temps, quand il reconstruisait la muraille, Néhémie a dit au peuple, souvenez-vous de votre histoire, souvenez-vous de qui est votre Dieu. Paul, pour conduire l'Église dans l'adoration et dans l'unité, et il dit cela notamment dans Éphésiens au chapitre 2, une des choses qu'il leur dit tout de suite, c'est souvenez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Et Jésus lui-même nous dit constamment cela quand il a pris le dernier repas avec ses disciples. Il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous, n'oubliez pas. Et il nous dit ceci parce qu'on a cette capacité à oublier. C'est grave, hein ? Parce qu'on a tendance à oublier. Il nous dit, rappelez-vous qui je suis. Rappelez-vous ce que j'ai fait. Et à cause de cela, rappelez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous dans vos temps d'épreuve afin de réagir avec foi, c'est-à-dire confiance, sans crainte, sans panique. Oui, il y aura des choses inquiétantes dans votre vie. Oui, il y aura des choses qui vont susciter la panique. Mais quand vous êtes en danger, quand vous êtes en épreuve, quand vous êtes face aux choses inquiétantes, venez vers moi. Rappelez-vous qui je suis. Question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que tu fais pour éduquer ta foi, pour te souvenir ? Alors, c'est vrai, le dimanche, ensemble, on prend la Sainte Cène. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais pour te souvenir ? Pour te souvenir des fois où Dieu a répondu à tes prières. Justement pour quand l'épreuve sera là, de continuer à prier en disant « Il a déjà répondu, je l'ai vu agir, donc aujourd'hui je peux encore prier. » Qu'est-ce que tu fais pour te souvenir de ces interventions à différents niveaux ? Pour que justement quand à nouveau on est dans l'épreuve, dans la panique, on puisse se dire « Je l'ai déjà vu à telle ou telle occasion, répondre à telle ou telle prière, me donner telle ou telle paix dans tel moment circonstance ou difficile. » Alors aujourd'hui, alors que je suis dans la panique la plus totale, que je ne vois rien, parce que je me souviens l'avoir déjà vu à l'œuvre, je peux aujourd'hui encore me confier en lui. Qu'est-ce que tu fais ? Et j'aimerais vraiment t'encourager là, à faire ce travail de mémoire, à te souvenir, à prendre le temps de te rappeler, quitte même à écrire sur un papier, à tenir un journal, comme tu veux, c'est complètement égal, mais te rappeler, à écrire pour ne pas oublier, là je l'ai vu agir. Voilà comment il a répondu. Voilà la paix qu'il m'a donnée, alors qu'il n'y avait pas de raison d'être en paix, etc. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va à nouveau pouvoir trouver, dans nos limites, la paix et le repos en lui. Souvenez-vous, où est votre foi ? Et face au miracle que Jésus accomplit, alors que les disciples ne se sont pas souvenus, ben tout d'un coup alors vient une question chez eux. Quel est donc celui-ci ? Il y avait déjà pas mal de choses qu'ils ont vues. Ils voient à nouveau quelque chose d'assez étonnant. Ils calment la mer et le vent. Quel est donc celui-ci ? Car il commande même au vent et à l'eau. Jésus ne répond pas à leur question. Et Luc ne répond pas non plus, mais il nous conduit vers la suite de ce récit. Et Jésus alors aborde le pays des Géraséniens, ce qui veut dire qu'ici, en fait, on n'est plus du tout en territoire juif, on n'est plus du tout en territoire ennemi, on n'est plus du tout en territoire où on se sent bien, on se sent à l'aise, et effectivement, pour preuve, il y a des cochons juste à côté. Et vous vous rappelez que pour des juifs, on ne mange pas de cochons, c'est un animal impur, donc clairement, on n'est pas bien à l'aise. Ça devait puer. Et pourtant, vient vers Jésus-Christ un homme qui n'a rien à voir avec le peuple juif et un homme qui est complètement, Luc nous dit, détruit par le diable, complètement détruit par l'oppression des démons. On voit que son estime personnelle est complètement détruite. Il se balade nu, ce qui ne se faisait absolument pas. En général, d'ailleurs, aujourd'hui, ça ne se fait toujours pas. Mais encore moins à l'époque. Son réseau social est complètement détruit, cassé. Il vit seul, abandonné, en dehors des villes, et même encore pire, dans les tombes. Et même son être intérieur est détruit. Effectivement, au début de notre texte, on ne l'entend pas parler. Mais ce sont les démons qui parlent au travers de lui. Verset 28. Il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur. » Donc c'est pas l'homme, mais c'est les démons qui étaient en lui qui le poussaient à parler. Et là, les disciples assistent à une scène qui est assez impressionnante, n'est-ce pas? En fait, nous voyons que nous sommes face à un conflit contre les démons. Et Luc, dans sa description de l'événement, insiste bien là-dessus. Verset 27, il vient un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Verset 29, l'esprit impur. Verset 30, légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Verset 32, les démons suppliaient. Verset 33, les démons sortirent. Luc insiste lourdement, nous sommes face à un énorme combat entre des puissances spirituelles. Et il nous rappelle, oui, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas quelque chose de l'Antiquité, c'est quelque chose qui est encore présent. Satan s'oppose à Dieu. Et il le fait aussi au travers de ces démons qui sont à son service, des êtres spirituels qui s'opposent au Créateur pour détruire complètement l'œuvre de Dieu. Et cette puissance se voit notamment par cela, verset 30, quel est ton nom ? Légion. Légion. Parce qu'on est plusieurs. C'est quoi une légion à l'époque, notamment ? Ouais, c'est ça. J'ai rien entendu parce qu'il y a tellement de choses à vous parler, mais je crois que Patrick t'a dit quelque chose. C'est une légion romaine, n'est-ce pas ? C'est une unité de combat, c'est la plus grande unité de combat où il y a quelque chose comme 5000 à 6000 hommes. C'est une occupation terrible pour les Juifs. Ça voulait signifier quelque chose, clairement, ce mot « légion ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 5000 à 6000 démons en lui, mais clairement, il y a du monde et ça fait occupation, désordre, destruction, comme les légions romaines pour un Juif. Et cela nous est montré et insisté dessus par le fait que quand ils sortent ces démons et qu'ils vont chez les pourceaux, vous voyez ce qui est le résultat ? C'est la panique totale dans un troupeau au point qu'ils en meurent. Et Luc nous dit, c'est ça qu'il y avait dans cet homme-là. C'était violent. Mais chose impressionnante, c'est l'attitude des démons quand ils se trouvent face à Jésus-Christ. Et Luc va insister aussi dessus. Verset 28. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu ? Je t'en supplie. Attends, légion, force de destruction, énorme puissance. Ils sont face à un homme qui voit arriver. Je t'en supplie. Verset 31. Et il suppliait Jésus. Verset 32. Et les démons suppliaient Jésus. Ils reconnaissent en Jésus-Christ une autre puissance, une autre domination, et pas n'importe laquelle. Une domination, une puissance supérieure à eux. Et effectivement, voilà ce que nous dit Luc quand il nous parle de Jésus-Christ qui interagit avec les démons, verset 29, car Jésus commandait à ces puissances-là. Et verset 31, et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas. Autrement dit, il savait très bien que quand lui parle, nous on n'a qu'à se taire. On ne peut pas résister. On n'a rien à dire. Et voilà la raison de ces supplications. C'est que quand ils le voient arriver, ils savent très bien qui il est. Ce n'est pas simplement Rabbi Jésus. Ce n'est pas simplement l'enseignant que les hommes voyaient, que, dont les responsables juifs s'opposaient. C'est Jésus, fils du Dieu très haut. Les démons connaissent Jésus-Christ et ce texte nous dit, ils tremblent. Ils ne font pas le poids. Au point que quand ils lui demandent quelque chose, ils lui supplient, verset 31, pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Parce que pour eux, Jésus n'est pas seulement le fils du Dieu très haut, Jésus pour eux, c'est leur juge. Celui qui va les détruire. Celui qui a le pouvoir de les lier et de leur dire, toi, c'est fini. Il me semble qu'on l'a déjà fait, mais c'est pas grave, je vais refaire un petit jeu ensemble. Je vais vous dire un mot, et sans réfléchir. Hein, voilà, comme d'habitude, on fait quelque chose sans réfléchir. Et vous allez répondre avec son contraire, d'accord ? Par exemple, je vous dis noir, blanc, voilà. Est, ouest, chaud, eau, Dieu, exactement. Exactement, mais non. Mais c'est effectivement ce qu'on a tendance à penser, n'est-ce pas? C'est, voilà, c'est que on met le diable exactement à l'opposé de Satan. Comme si Dieu, c'était le Dieu du bien, et Satan, le diable, le Dieu du mal. Et en fait, dans nos têtes, souvent, on est dans un monde dualiste. Comme s'il y avait deux forces égales qui étaient en train de s'affronter, de s'opposer. Et en fait, on ne sait pas très bien qui va gagner. Et nous, on est au milieu de tout cela. Mais ce n'est pas du tout le monde que nous présente la Bible. La Bible nous présente constamment que le diable est une créature qui s'est rebellée contre son créateur. Et qu'il est inférieur. Et qu'il tremble et qu'il n'a rien à dire. Dieu lui donne une certaine marge de liberté. Mais Dieu est au-dessus et quand Dieu parle, Satan se tait. Et on doit faire attention à ça. On se laisse vite prendre part, et soyons clairs, ce mensonge. Et parce qu'on est pris dans ce mensonge, d'un monde dualiste, où en fait il y a l'égalité entre Dieu et Satan, on est souvent en train, même en tant que chrétien, d'être plus en train de craindre Satan, de chercher à lutter contre Satan, plutôt que de se réfugier auprès de Dieu et de trouver en Dieu la paix et le repos. Plutôt que de venir auprès de Dieu et de trouver en lui la libération parce qu'on se soumet à lui. Et c'est ce que nous dit Jacques, n'est-ce pas? De nous soumettre à Dieu et Satan va fuir. C'est ce que nous dit Paul, toujours dans Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, et il y a des bonnes raisons parfois de se mettre en colère, ne péchez pas, ne laissez pas le diable avoir accès. Mais je ne me souviens plus de la suite, c'est ne laissez pas la colère agir et il faut régler ça avant de se coucher. Mais Paul dit beaucoup mieux que moi. Si vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Ce qui veut dire, vous ne voulez pas donner accès au diable? Paul il nous dit quoi? Obéissez à Dieu. Tout simplement. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et c'est ainsi que vous ne donnerez pas accès au diable. Pourquoi avoir toujours peur de Satan? Pourquoi toujours craindre Satan? Faire des choses pour qu'il parte, il se repousse. Et même parfois, à vouloir faire des grandes séances pour dire « va-t'en, va-t'en, va-t'en » alors que Dieu nous dit « viens vers moi et obéis-moi. Soumets-toi à moi. » Et Satan disparaîtra. Je vous renvoie à un passage de 2 Timothée où Paul dit à Timothée que le serviteur de Dieu doit être apte à enseigner afin de reprendre ceux qui sont dans les pièges de Satan. Il doit enseigner la vérité pour libérer ceux qui sont dans les pièges de Satan. Il ne nous dit pas « chassez à gogo, chassez à gogo, chassez à gogo ». Il nous dit « enseignez la vérité ». Afin que le père du mensonge, Satan, n'ait plus rien à dire. Et c'est ce que Paul exprime en d'autres mots, n'est-ce pas? Quand en Éphésiens, il nous dit « prenez le bouclier de la foi. Saisissez la vérité de Dieu. Laissez la vérité de Dieu agir en vous. Et c'est ainsi que vous résisterez. » On peut vite être dans la crainte parce qu'on est pris par ce mensonge. Mais clairement, ce texte nous le rappelle, pour les démons, la réalité est tout autre. Jésus est leur juge et ils tremblent. Ils savent que leur fin est l'abîme et que c'est lui qui les conduira là-dedans. Alors pour nos disciples qui se posaient la question « qui est celui-ci ?», la réponse est « celui-ci est le maître absolu ». Il est le maître absolu sur la nature, sur le monde physique, et il est le maître absolu sur le monde spirituel. À cause de cela, quand nous sommes en danger, poussés à nos limites, que la crainte et la panique semblent venir à bord, nous pouvons simplement venir à lui, en nous rappelant qui est Jésus-Christ. Il est le maître. Il est le maître. Et nous n'avons pas à craindre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien nous arriver, d'accord? Vous voulez un exemple? Jésus-Christ. Il lui est arrivé quelque chose de dramatique, de violent, quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, mais qu'il a accepté de faire pour nous. N'est-ce pas? Il l'a subi pour nous. Se confier en Dieu, se confier dans le Maître absolu ne veut pas dire qu'il n'y aura rien, mais ça veut dire que la victoire est au bout. À l'exemple de Jésus-Christ. Et à l'exemple de Jésus-Christ qui a dit à son disciple de porter sa croix, de se charger de sa croix. Et je rappelle que, vous vous souvenez, c'est qui portait sa croix d'ailleurs? Qui c'est qui devait porter la croix? Le supplicié, hein? C'est celui qui va être pendu à la croix, cloué sur cette croix. Donc quand il nous dit de porter notre croix, il nous dit vivez comme si vous étiez mort pour ce monde. En nous arrêtant de nous confier dans ce qu'il y a dans ce monde, en arrêtant de faire de ce monde nos objectifs. Ça ne veut pas dire de ne pas vivre dedans, de s'auto-flageller, etc., n'est-ce pas? Mais de ne pas mettre notre espérance dedans. Notre espérance, elle est dans le Dieu qui vient nous réconcilier avec lui. Et à son exemple, le chemin de la souffrance, c'est le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire passe par la croix. Et si le chemin de la gloire passe par la croix pour le maître, le chemin de la gloire passe par la croix pour le disciple aussi. Donc ne croyons pas que se confier dans le maître absolu qui a toute autorité sur le monde physique et sur le monde spirituel ne va pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Mais qu'il nous accompagne au travers de cela. Et que la gloire est au bout du chemin. Remarquons la réaction des habitants de la région, verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Et en foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner. Car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils étaient tellement plus à l'aise et plus confortables avec cet homme pris par les démons qu'avec Jésus-Christ. Ils préféraient l'emprise des démons que la conduite de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de dramatique, mais qui nous rappelle la chose suivante. Pour chacun d'entre nous, Jésus ne s'impose jamais. Il va nous laisser le choix. Et aujourd'hui encore, il nous laisse le choix. Je suis la puissance pour toi, pour te délivrer de tes emprises. Mais je ne vais pas m'imposer. Je te laisse le choix. Tu es libre. Mais sache qui je suis, le maître, le juge. Fais ton choix, et un choix éclairé. Qu'allons-nous lui répondre aujourd'hui? Jacques nous a dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Et par ces épreuves, on voit ici que Dieu vient transformer encore une fois notre foi théorique en une foi pratique. Il vient transformer notre foi théorique en une foi vivante, en une relation, car l'épreuve nous apprend véritablement à laisser la place à Jésus-Christ dans notre vie. Et pour cela, pour ce but ultime et la priorité absolue de la relation libératrice et éternelle de Dieu, Dieu va nous donner des épreuves pour faire de nous des disciples, comme il est en train de former les 12 disciples. Dans nos épreuves, qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'une épreuve actuelle, c'est le coronavirus? Je n'en sais rien. Peut-être. Et ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pour toi, qui est Jésus-Christ? Et ce texte nous rappelle, la vie des disciples n'était pas dans la tempête. La vie des disciples n'était pas dans la main des démons. Notre vie n'est pas dans la main des coronavirus. Notre vie est dans la main de Jésus-Christ seul. Est-ce que pour quelques-uns d'entre nous, est-ce que pour moi, ça veut dire qu'on va mourir? Je n'en sais rien. Je ne suis pas prophète.
Mais dans qui est notre main et où allons-nous? Ça, c'est la vraie question. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle aussi à lui faire confiance face à l'épreuve. Merci, Émile. On aura les deux, parlez fort. Dans cette épreuve-là, qu'allons-nous répondre? Qu'allons-nous dire? En qui allons-nous confier? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les liquides, mettre les masques, etc. Dieu nous a donné une intelligence, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais en qui allons-nous nous confier? À qui allons-nous remettre notre vie? Et vers qui irons-nous à la fin de notre vie? Qu'allons répondre? Qui es-tu, Jésus? Et apprends-moi à me confier en toi aujourd'hui, ou rejeter l'épreuve et être dans la panique totale. En pratique, comment ça peut se vivre, cela? Comme dit, on a tous une tempête, quelle qu'elle soit, peut-être une tempête relationnelle, mais dans ces moments où notre foi est dans cette tempête relationnelle, voilà comment notre foi pourrait réagir. Face à une tempête relationnelle, quelles sont les instructions que Dieu nous donne pour trouver la paix? La prière, la louange, le calme, ouais, s'en remettre à l'Éternel, c'est lui qui va prendre soin de nous. Mais on a aussi d'autres indications dans la Bible. Par exemple, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà ce que nous dit Dieu dans ces moments-là pour nous confier en lui, quand il y a une tempête relationnelle. Et ce n'est pas de s'éloigner de la personne pour être en paix, n'est-ce pas? Ce n'est pas une paix à distance ou par ignorance et évitement. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, faites-vous tous vos efforts. Oui, priez. Oui, chantez. Mais obéissez aussi. Pour vous confier dans votre Seigneur. Autre exemple, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comment je réagis quand j'ai une tension avec ma femme, avec mes enfants? Avec mon patron, avec mes collègues. Est-ce que j'évite ou j'ai des paroles de grâce qui sortent et qui vont avoir tendance à apaiser? Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Ouais, il faut prier. Ouais, il faut louer. Mais si on ne loue pas en respectant ce que Dieu dit, notre prière et notre chant ne servent à rien. C'est du pipeau. Ou de l'hypocrisie, comme on veut. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Dieu veut nous offrir la paix. Mais est-ce qu'on veut vraiment la recevoir, en fait? Est-ce qu'on veut vraiment la recevoir en l'écoutant, en acceptant son enseignement, sa volonté? Mais ce qui veut dire en acceptant sa personne, hein? Parce que si on veut sa personne, mais pas sa parole, ça veut dire qu'on n'accepte pas sa personne. Imaginez. Si Claire me dit « Philippe, j'aime tellement les roses, mais j'ai horreur des tulipes et que j'arrête pas de lui offrir des tulipes parce que moi, j'aime lui offrir des tulipes. » Est-ce que j'aime vraiment Claire? À un moment donné, elle va me dire « Philippe, il y a un truc que tu n'as pas compris, quoi. Tu te fais plaisir, mais ce n'est pas moi qui te fais plaisir. » Si on dissocie la personne de sa parole, on a viré la personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Ou alors, c'est que le Dieu qu'on imagine, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Cette paix, Jésus veut nous l'offrir, car il a démontré sa puissance à la croix.
C'est là où il a dépouillé Satan, et le texte nous dit, il l'a livré en spectacle, révélant complètement sa défaite par sa victoire à la croix complète. À la croix, Jésus-Christ a accepté l'épreuve la plus grande pour nous sortir de toutes nos épreuves. Et il nous invite à sa suite à nous confier en lui aujourd'hui, à nous confier complètement et totalement en lui, dans sa parole, pour recevoir la paix qu'il veut nous offrir. Lui qui est le maître, qui a vaincu les forces physiques et les forces spirituelles de notre monde. Je vous invite à prier.